Le comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Chapitre 109, les Assises. L'affaire Benedetto, comme on disait alors au palais et dans le monde, avait produit une énorme sensation. Habitué du café de Paris, du boulevard de Gand et du bois de Boulogne, le fou Cavalcanti, pendant qu'il était resté à Paris et pendant les 2 ou 3 mois qu'avait duré sa splendeur, avait fait une foule de connaissances. Les journaux avaient raconté les diverses stations du prévenu dans sa vie élégante et dans sa vie du bagne. Il en résultait la plus vive curiosité chez ceux-là, surtout, qui avaient personnellement connu le prince Andrea Cavalcanti. Aussi, ceux-là, surtout, étaient-ils décidés à tout risquer pour aller voir sur le banc des accusés M. Benedetto, l'assassin de son camarade de chaîne. Pour beaucoup de gens, Benedetto était sinon une victime, du moins une erreur de la justice. On avait vu M. Cavalcanti père à Paris, et l'on s'attendait à le voir de nouveau apparaître pour réclamer son illustre rejeton. Bon nombre de personnes qui n'avaient encore jamais entendu parler de la fameuse Polonaise avec laquelle il avait débarqué chez le comte de Monte Cristo s'étaient sentis frappés de l'air digne, de la gentilhommerie et de la science du monde qu'avait montré le vieux patricien, lequel, il faut le dire, semblait un seigneur parfait toutes les fois qu'il ne parlait point et ne faisait point d'arithmétique. Quant à l'accusé lui-même, beaucoup de gens se rappelaient l'avoir vu si aimable, si beau, si prodigue, qu'ils aimaient mieux croire à quelque machination de la part d'un ennemi, comme on en trouve en ce monde, où les grandes fortunes élèvent les moyens de faire le mal et le bien à la hauteur du merveilleux, et la puissance à la hauteur de l'inouï. Chacun courut donc à la séance de la cour d'assises, les uns pour savourer le spectacle, les autres pour le commenter. Dès 7 heures du matin, on faisait queue à la grille, et 1 heure avant l'ouverture de la séance, la salle était déjà pleine de privilégiés. Avant l'entrée de la cour, et même souvent après, une salle d'audience, les jours de grands procès ressemblent fort à un salon où beaucoup de gens se reconnaissent, s'abordent quand ils sont assez près les uns des autres pour ne pas perdre leur place, se font des signes quand ils sont séparés par un trop grand nombre de populaires, d'avocats et de gendarmes. Il faisait une de ces magnifiques journées d'automne qu'il nous dédommage parfois d'être absent ou écourté. Les nuages que M. de Villefort avait vus le matin rayer le soleil et le vent s'étaient dissipés comme par magie et laissaient luire dans toute sa pureté un des plus doux jours de septembre. Beauchamp, un des rois de la presse, et par conséquent ayant son trône partout, lorgnait à droite et à gauche. Il aperçut Château-Renaud et Debray, qui venait de gagner les bonnes grâces d'un sergent de ville et qu'il avait décidé à se mettre derrière eux au lieu de les masquer comme c'était son droit. Le digne agent avait flatté le secrétaire du ministre et le millionnaire. Il se montra à plein d'égards pour ses nobles voisins et leur permit même d'aller rendre visite à Beauchamp en leur promettant de leur garder leur place. « Eh bien, dit Beauchamp, nous venons donc voir notre ami ?»« Eh mon Dieu, oui, répondit Debray, ce digne prince, que le diable soit des princes italiens, va !» Un homme qui avait eu Dante pour généalogiste et qui remontait à la Divine Comédie. Noblesse de corde, dit flegmatiquement Château-Renaud. Il sera condamné, n'est-ce pas ? Demanda Debray à Beauchamp. Eh, mon cher, répondit le journaliste, c'est à vous, ce me semble, qu'il faut demander cela. Vous connaissez mieux que nous autres l'air du barreau. Avez-vous vu le président la dernière soirée de votre ministre ?
Oui.
Que vous a-t-il dit ? Une chose qui va vous étonner.
Ah ! Parlez donc vite ! Allons, cher ami, il y a si longtemps qu'on ne me dit plus rien de ce genre-là.
Eh bien, il m'a dit que Benedetto, qu'on regarde comme un phénix de subtilité, comme un géant d'astuce, n'est qu'un filou très subalterne, très niais, et tout à fait indigne des expériences qu'on fera après sa mort sur ses organes phrénologiques.
Bah ! Fit Beauchamp.
Il jouait cependant très passablement le prince.
« Pour vous,
Beauchamp qui les détestait, ces malheureux princes, et qui êtes enchantés de leur trouver de mauvaises façons.
mais pas pour moi, qui fait l'air d'instinct le gentilhomme et qui élève une famille aristocratique, quelle qu'elle soit, en vrai limier du blason. Ainsi, vous n'avez jamais cru à sa principauté?
Sa principauté?
Si.
À son principat?
Non. Pas mal, dit Debray. Je vous assure cependant que pour tout autre que vous, il pouvait passer.
Je l'ai vu chez des ministres.
Ah oui, dit Château Renaud. Avec cela que vos ministres se connaissent en prince.
Il y a du bon dans ce que vous venez de dire, Château Renaud, répondit Beauchamp en éclatant de rire.
La phrase est courte, mais agréable. Je vous demande la permission d'en user dans mon compte-rendu.
Prenez, mon cher monsieur Beauchamp, dit Château Renaud, prenez. Je vous donne ma phrase pour ce qu'elle vaut.
Mais, dit Debray à Beauchamp, si j'ai parlé au président, vous avez dû parler au procureur du roi, vous.
Impossible. Depuis 8 jours, monsieur de Villefort se scelle. C'est tout naturel. Cette suite étrange au chagrin domestique couronné par la mort étrange de sa fille.
La mort étrange? Que dites-vous donc là, Beauchamp?
Ah oui, faites donc l'ignorant, sous prétexte que tout cela se passe chez la noblesse de robe, dit Beauchamp en appliquant son lorgnon à son œil et en le forçant de tenir tout seul.
Mon cher monsieur, dit Château Renaud, permettez-moi de vous dire que, pour le lorgnon, vous n'êtes pas de la force de Debray. Debray, donnez donc une leçon à monsieur de Beauchamp.
Tiens, dit Beauchamp, je ne me trompe pas.
Quoi donc?
C'est elle.
Mais qui elle?
On la disait partie. Mademoiselle Eugénie? Demanda Château Renaud. Sera-t-elle déjà revenue?
Non.
Mais sa mère?
Madame Danglars?
Allons donc, fit Château Renaud. Impossible. 10 jours après la fuite de sa fille, 3 jours après la banqueroute de son mari.
Debray rougit légèrement et suivit la direction du regard de Beauchamp.
Allons donc, dit-il. Oh, c'est une femme voilée.
Une dame inconnue. Quelque princesse étrangère.
La mère du prince Cavalcanti, peut-être.
Mais vous disiez, ou plutôt, vous allez dire des choses fort intéressantes, Beauchamp, ce me semble.
Moi?
Oui. Vous parliez de la mort étrange, Valentine.
Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi donc madame de Villefort n'est-elle pas ici?
Pauvre chère femme, dit Debray. Bon, elle est sans doute occupée à distiller de l'eau de mélisse pour les hôpitaux et à composer des cosmétiques pour elle et pour ses amis.
Vous savez qu'elle dépense à cet amusement 2 ou 3 000 écus par an, à ce que l'on assure.
Au fait, vous avez raison. Pourquoi n'est-elle pas ici, madame de Villefort?
Je l'aurais vue avec grand plaisir. J'aime beaucoup cette femme.
Et moi, dit Château Renaud, je la déteste.
Pourquoi?
Je ne sais rien. Pourquoi aime-t-on? Pourquoi déteste-t-on?
Je la déteste par antipathie.
Ou par instinct, toujours.
Peut-être. Mais revenons à ce que vous disiez, Beauchamp.
Eh bien, reprit Beauchamp, n'êtes-vous pas curieux de savoir, messieurs, pourquoi l'on meurt si dru dans la maison de Villefort?
Dru est joli, dit Château Renaud.
Mon cher, le mot se trouve dans Saint-Simon. Mais la chose se trouve chez monsieur de Villefort.
Revenons-y donc.
Ma foi, dit Debray, j'avoue que je ne perds pas de vue cette maison tendue de deuil depuis 3 mois et, avant-hier encore, à propos de Valentine, madame m'en parlait.
Qu'est-ce que madame? Demanda Château Renaud.
La femme du ministre, pardieu.
Ah, pardon, fit Château Renaud. Je ne vais pas chez le ministre, moi. Je laisse cela au prince.
Vous n'étiez que beau. Vous devenez flamboyant, baron.
Prenez pitié de nous. Vous allez nous brûler comme un autre Jupiter.
Moi, je ne dirai plus rien, dit Château Renaud.
Mais que diable! Ayez pitié de moi. Ne me donnez pas la réplique.
Voyons. Tâchons d'arriver au bout de notre dialogue.
Beauchamp. Je vous disais donc que madame ne me demandait avant-hier des renseignements là-dessus.
Instruisez-moi.
Je l'instruirai.
Eh bien, messieurs, si l'on meurt si dru, je maintiens le mot. Dans la maison Villefort, c'est qu'il y a un assassin dans la maison.
Les deux jeunes gens tressaillirent, car déjà plus d'une fois la même idée leur était venue.
Mais quel est cet assassin? Demandèrent-ils ensemble.
Le jeune Édouard.
Un éclat de rire des deux auditeurs ne déconcerta aucunement l'orateur, qui continua.
Oui, messieurs, le jeune Édouard, enfant phénoménal, qui tue déjà comme père et mère.
C'est une plaisanterie.
Pas du tout. J'ai pris hier un domestique qui sort de chez monsieur de Villefort. Écoutez bien ceci.
Nous écoutons.
Et que je vais renvoyer demain parce qu'il mange énormément pour se remettre du jeûne de terreur qu'il s'imposait là-bas.
Eh bien, il paraît que ce cher enfant a mis la main sur quelques flacons de drogue dont il use de temps en temps contre ceux qui lui déplaisent. D'abord, ce fut bon papa et bonne maman de Saint-Méran qui lui déplurent, et il leur a versé 3 gouttes de son élixir. 3 gouttes suffisent. Puis ce fut le brave Barrois, vieux serviteur de mon papa Noirtier, lequel rudoyait de temps en temps l'aimable espiègle que vous connaissez. L'aimable espiègle lui a versé 3 gouttes de son élixir. Ainsi fut fait de la pauvre Valentine, qui ne le rudoyait pas, elle, mais dont il était jaloux. Il lui a versé 3 gouttes de son élixir. Et pour elle, comme pour les autres, tout a été fini. « Mais quel diable de conte vous nous faites, vous, là ?» dit Château-Renaud. « Oui, dit Beauchamp. Un conte de l'autre monde, n'est-ce pas ?»« C'est absurde, dit Debray. »« Ah, reprit Beauchamp. Voilà déjà que vous cherchez des moyens dilatoires. Mais que diable, demandez à mon domestique, ou plutôt à celui qui demain ne sera plus mon domestique. C'était le bruit de la maison. Mais cet élixir, où est-il ? Quel est-il ? Dame, l'enfant le cache. Où l'a-t-il pris ? Dans le laboratoire de madame sa mère. Sa mère a donc des poisons dans son laboratoire ? Parce que je sais, moi. Vous venez me faire là des questions de procureur du roi. Je répète ce qu'on m'a dit, voilà tout. Je vous cite mon auteur. Je ne puis faire davantage. Le pauvre diable ne mangeait plus d'épouvante. C'est incroyable. Mais non, mon cher, ce n'est pas incroyable du tout. Vous avez vu l'an passé cet enfant de la rue Richelieu qui s'amusa à tuer ses frères et ses sœurs en leur enfonçant une épingle dans l'oreille tandis qu'il dormait. La génération qui nous suit est très précoce, mon cher. Mon cher, dit Château-Renaud, je parie que vous ne croyez pas un seul mot de ce que vous nous contez là. Mais je ne vois pas le comte de Monte-Cristo. Comment donc n'est-il pas ici ?
Il est blasé, lui, fit Debray. Puis il ne voudra point paraître devant tout le monde, lui qui a été la dupe de tous les Cavalcanti, lesquels sont venus à lui, à ce qu'il paraît, avec de fausses lettres de créance, de sorte qu'il en est pour 100 000 francs hypothéqués sur la principauté.
À propos, monsieur Château-Renaud, demanda Beauchamp, comment se porte Morel ?
Ma foi, dit le gentilhomme, voilà 3 fois que je vais chez lui, et pas plus de Morel que sans la main.
Cependant, sa sœur ne m'a point paru inquiète, et elle m'a dit, avec un fort bon visage, qu'elle ne l'avait pas vu non plus depuis 2 ou 3 jours, mais qu'elle était certaine qu'il se portait bien.
« Ah, j'y pense. Le comte de Monte-Cristo ne peut venir dans la salle, dit Beauchamp.
Pourquoi cela ?
Parce qu'il est acteur dans le drame.
Est-ce qu'il a aussi assassiné quelqu'un ? Demanda Debray.
Mais non, c'est lui, au contraire, qu'on a voulu assassiner. Vous savez bien que c'est en sortant de chez lui que ce bon M. Caderousse a été assassiné par son petit ami Benedetto. Vous savez bien que c'est chez lui qu'on a retrouvé ce fameux gilet dans lequel était la lettre qui est venue déranger la signature du contrat. Voyez-vous le fameux gilet ? Il est là, tout sanglant, sur le bureau, comme pièce de conviction.
Ah, fort bien. Chut, messieurs, voici la cour. À nos places.
En effet, un grand bruit se fit entendre dans le prétoire. Le sergent de ville appela ses 2 protégés par un « énergique, et l'huissier paraissant au seuil de la salle des délibérations, cria de cette voix clapissante que les huissiers avaient déjà du temps de Beaumarchais.
« La cour, messieurs !»